Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Montée de la tension entre la RDC et le Rwanda, l'ONU appelle au dialogue. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz renvoyé devant un tribunal pour corruption présumée. En Guinée, la junte maintient son interdiction de toute manifestation durant les 3 ans de transition. Moscou accuse Washington de jeter l'huile sur le feu en envoyant des armes américaines à l'Ukraine. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Face à la montée de la tension entre la RDC et le Rwanda, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les deux pays au dialogue. Kinshasa a dit accepter de libérer 2 soldats rwandais détenus. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'annonce de cette libération a été faite par le président angolais João Lourenço à la suite d'entretiens avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. C'est une mesure destinée à aider à réduire la tension dans les relations entre les deux pays, a ajouté Luanda, chargé par l'Union africaine de mener la médiation entre Kigali et Kinshasa. Le président Lourenço s'est également entretenu par visioconférence avec le président rwandais Paul Kagame, a aussi déclaré Luanda. Suite à ces entretiens, les dirigeants rwandais et congolais sont parvenus à un accord pour se rencontrer en face à face dans la capitale angolaise à une date qui sera annoncée. À New York, les membres du Conseil de sécurité ont appelé au calme et exprimé leur inquiétude, appelant les deux parties à retourner à la table des négociations et à rétablir la confiance. La querelle entre le Rwanda et la RDC s'est intensifiée ces derniers jours, Kinshasa accusant Kigali de soutenir les rebelles du M23.
RDC toujours, des centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le Rwanda ce mercredi à Kinshasa, la capitale, et à Bukavu dans l'Est, réclamant la rupture des liens avec Kigali, accusé de soutien à des rebelles. À Kinshasa, où une manifestation avait déjà eu lieu lundi, les manifestants, encadrés par la police, se sont rassemblés en fin d'après-midi devant l'ambassade du Rwanda. Au Cameroun, 3 militaires et 4 civils ont été tués en début de semaine par des djihadistes dans l'extrême nord du pays, ont indiqué ce mercredi 2 sources sécuritaires. Le poste militaire d'Itawa, près de la frontière avec le Nigeria, a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi aux environs de 2h du matin par des membres de Boko Haram, a déclaré une autorité locale sous couvert d'anonymat. Également au Mali, un casque bleu de la mission des Nations Unies a été tué et 3 autres blessés ce matin dans l'attaque de leur convoi à Kidal dans le nord du pays. Les casques bleus atteints font partie du contingent jordanien de la MINUSMA qui avait évoqué auparavant une attaque terroriste sans préciser les auteurs présumés. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, redoute le vide sécuritaire au Mali provoqué par le retrait en cours de la force militaire française anti-djihadiste Barkhane, selon un rapport remis mercredi au Conseil de sécurité. En Guinée, la junte au pouvoir dit n'avoir aucune raison de rétablir le droit de manifester malgré l'appel de l'ONU, des partis politiques et de la société civile. Plus de détails avec Nanit Talani.
Les autorités guinéennes ont opposé une fin de non-recevoir à la demande onusienne. Elles ont réitéré qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies. Les manifestations sont interdites depuis le 13 mai pendant les 3 ans de transition. La junte a fait savoir que le pays a connu auparavant un très grand nombre de manifestations qui ont fait des centaines de morts. Depuis son accession au pouvoir, elle dit avoir mis en place des organes permettant le dialogue. En conséquence, rien ne saurait justifier les marches en cette période sensible de la vie nationale, affirme le communiqué. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait exhorté lundi les militaires guinéens à rétablir le droit de manifester. Le FNDC, une coalition de partis et d'associations de la société civile, dénonce l'attitude dictatoriale de la junte et appelle à des manifestations pour empêcher la confiscation du pouvoir et exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Nous reviendrons sur ce dossier dans la seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Conakry. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz sera jugé par un tribunal pour corruption présumée avec 11 autres dignitaires de son régime. Nous faisons le point avec Rosine Mounezero.
Mohamed Ould Abdelaziz et 11 co-inculpés, dont un de ses gendres, deux anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires, sont accusés de corruption, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. L'ancien président a été inculpé en mars 2021 en même temps que ses personnalités. Le juge d'instruction a décidé de les renvoyer devant la cour criminelle de Nouakchott, a déclaré sous couvert d'anonymat un magistrat. Aucune date n'a été annoncée pour la tenue du procès. L'ex-chef d'État a été placé en détention en juin 2021 pour non-respect, selon la justice, des mesures de son contrôle judiciaire et troubles à l'ordre public avant d'être relâché début janvier pour raison de santé. La justice a été saisie en 2020 du rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui s'était penchée sur la question des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État et les activités d'une société chinoise de pêche. L'ex-président, qui crie au règlement de compte, a toujours refusé de parler au juge d'instruction. Il s'estime protégé par l'immunité que lui confère, selon lui, la Constitution.
L'organisation Médecins sans frontières dénonce les traitements inhumains infligés à des migrants ouest-africains cherchant à gagner l'Europe et qui ont été refoulés de l'Algérie et de la Libye vers le Niger voisin. En moyenne, environ 2000 migrants sont expulsés de l'Algérie et de la Libye chaque mois, parmi lesquels on enregistre des blessés graves abandonnés en plein désert, précise MSF dans un communiqué. Les États-Unis ont nommé un diplomate de carrière, Mike Hammer, comme nouvel émissaire pour la Corne de l'Afrique, avec la délicate tâche de consolider les efforts fragiles pour ramener la paix en Éthiopie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie prend des mesures pour minimiser l'impact d'un embargo sur le pétrole russe décidé par l'Union européenne, a assuré mercredi le Kremlin, confronté aussi à une chute de ses exportations de gaz. Les précisions de John Linden.
Ces sanctions vont avoir un impact négatif pour l'Europe, pour nous et pour l'ensemble du marché mondial de l'énergie. Mais il y a une réorientation qui va nous permettre de minimiser les conséquences négatives, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord lundi qui devrait permettre de réduire drastiquement leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Bruxelles espère priver Moscou d'une importante source de revenus pour financer son offensive en Ukraine. D'autre part, le Kremlin accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu après l'annonce de la livraison des systèmes de missiles américains à Kiev. Sur le terrain, les forces ukrainiennes sont mercredi sur le point de céder Severodonetsk. La Russie assure avoir pris contrôle de l'écrasante majorité de cette ville stratégique dans l'est de l'Ukraine.
L'Ukraine, qui par ailleurs a donné des assurances aux États-Unis pour garantir qu'elle n'utiliserait pas les nouveaux systèmes de missiles promis par Washington pour viser des cibles en Russie, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken a également déclaré s'attendre à ce que le conflit dure encore de nombreux mois. Dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson, majoritairement occupée par les Russes, Kiev affirme en revanche avoir lancé une contre-offensive. Les Ukrainiens s'inquiètent d'une possible annexion de cette région. Le secrétaire général de l'OTAN a annoncé qu'il réunirait dans les prochains jours des responsables de la Suède, de la Finlande et de la Turquie pour tenter de surmonter l'opposition turque à l'adhésion des deux pays nordiques en amont du sommet de l'Alliance Atlantique. Téhéran met en garde contre toute action non constructive qui serait décidée lors de la réunion la semaine prochaine du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique après un rapport de celle-ci sur des sites nucléaires non déclarés en Iran. Les dirigeants de la planète se retrouveront demain jeudi et vendredi à Stockholm pour un sommet marquant le 50e anniversaire de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Les organisateurs espèrent des résultats concrets, mais des militants de la lutte contre le changement climatique ont exprimé leurs doutes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Banque africaine de développement finance un projet de désenclavement des zones de production de Amdara Washa Dungas dans la région de Zender, dans l'est du Niger, pour améliorer deux routes et construire les infrastructures socio-économiques. Ce projet va aussi soutenir l'agriculture, la sylviculture et l'élevage à travers la construction de centres de vaccination du bétail et l'installation d'unités laitières. Une sécheresse exceptionnelle, une mauvaise récolte et une flambée des prix menacent de saper la croissance du Maroc. Cette année, le royaume chérifien tablait sur une hausse du PIB de 3,2%, mais les conditions extérieures soudaines et le changement climatique ont chamboulé cette prévision, a reconnu le chef du gouvernement Aziz Akanouche. Selon le gouvernement marocain, la croissance devrait osciller entre 1,5% et 1,7% cette année. Pour terminer, la douane de l'Afrique occidentale et centrale est invitée à former son personnel dans le renseignement, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, à renforcer leur coopération pour démanteler les réseaux de fraude dans les deux sous-régions. C'est l'une des recommandations de la 28e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes, tenue du 26 au 27 mai à Brazzaville, au Congo.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Début ce mercredi des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Oui, trois matchs. Aujourd'hui, l'Angola s'est imposé 2-1 devant la République centrafricaine. La Libye a pris le dessus sur le Botswana 1-0. Le Ghana accueille Madagascar. Demain jeudi, le Mozambique défie le Rwanda et la Tunisie joue contre la Guinée équatoriale. Des qualifications que ne disputeront pas le Kenya et le Zimbabwe, qui n'ont pas réussi à faire annuler leur suspension du 24 février, prononcée par la FIFA en raison d'ingérence des deux gouvernements.
Par contre, Sao Tomé et Principe réintègre le groupe A.
Après avoir été disqualifié des éliminatoires de la CAN 2023, Sao Tomé et Principe retrouvent les qualifications. Mi-mai, la CAF a disqualifié cette équipe pour avoir aligné le joueur Luis Lehal face à l'île Maurice, soutenant que ce dernier n'aurait pas respecté les protocoles Covid-19. L'instance africaine du ballon rond a fait un revirement ce mercredi, revenant sur sa décision. L'appel de l'association de football de Sao Tomé et Principe est accueilli et la décision du conseil de discipline de la CAF est annulée dans son intégralité. Le résultat du match entre l'île Maurice et Sao Tomé et Principe est entériné et validé, annonce un communiqué de la CAF. En conséquence, Sao Tomé et Principe réintègrent le groupe A des éliminatoires de la CAN 2023 aux côtés du Nigeria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau, aux dépens de l'île Maurice qui avait été repêchée.
Athlétisme, Lamecha Girma enflamme le 3000 mètres steep à Ostrava.
L'Éthiopien, vice-champion du monde et vice-champion olympique du 3000 mètres steep, a gagné mardi au meeting d'Ostrava avec un chrono canon, l'un des meilleurs de tous les temps. Lamecha Girma s'est imposé en solitaire en 7 minutes 58 secondes 68, meilleure performance mondiale de la saison, âgé de seulement 21 ans. Il n'est que le 13e athlète de l'histoire à passer sous la barrière symbolique de 8 minutes dans cette course et le premier Éthiopien à la franchir. Parmi les coureurs en activité, seul le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali est déjà allé plus vite avec 7 minutes 58 secondes 15 à Monaco en 2018 sur la distance. Sur 200 mètres, la légende américaine Allyson Felix a pris la deuxième place en 22 secondes 78, largement devancée par la Nigérienne Aminatou Seini, 22 secondes 21, auteur d'un nouveau record national. Sur 800 mètres, l'étoile montante Emmanuel Wanyoni, un Kenyan âgé de seulement 17 ans et champion du monde junior l'été dernier, s'est imposé en 1 minute 44 secondes 15 pour la première course de sa carrière hors de son pays. Enfin, sur 300 mètres haies, la néerlandaise Femke Bol, médaillée de bronze olympique sur 400 mètres haies, a réussi la meilleure performance mondiale de tous les temps, 36 secondes 86.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Guinée, la junte au pouvoir confirme l'interdiction des manifestations. Une annonce faite quelques jours après la demande de levée de l'interdiction faite par l'ONU. Selon les autorités de Conakry, les manifestations de rue peuvent retarder l'exécution du calendrier de la transition. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
C'est dans un communiqué lu ce mardi 31 mai 2022 à la télévision nationale que le CNRD a insisté sur le maintien des manifestations politiques en Guinée. Pour Sylou Barry, il faut laisser les Guinéens manifester à condition que les autorités et les partis politiques donnent des garanties qu'il n'y aura pas de dérapage.
Il y a des règles de base en démocratie. Au moment où, si la manifestation a lieu, ceux-là qui veulent organiser donnent les garanties d'encadrer la manifestation d'un point A au point B, sans qu'il y ait cas, sans qu'il y ait mort d'homme, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Parce que c'est la démocratie, chacun est libre d'exprimer ses opinions.
Exprimer ses opinions, même à travers des manifestations de rue, ce jeune sociologue n'y trouve pas d'objection. Mais pour Ablaye Sidi Bé, le moment n'est pas opportun pour de tels mouvements.
On doit aujourd'hui lutter contre certains fléaux. Et puis, c'est la période donnée pour la Guinée de parler de réconciliation entre les Guinéens, de faire la lumière sur les tueries qui ont eu lieu durant tout le temps du régime renversé. C'est très contradictoire qu'on soit dans cet exercice et qu'on donne le droit fondamental à des gens qui veulent manifester, revenir sur les habitudes des manifestations précédentes, et puis qu'il y ait des morts, on va se retrouver dans un éternel recommencement des choses.
Selon une partie de la classe politique guinéenne, au moins 200 manifestants ont été tués. Pour ce jeune citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry, on peut bien éviter de nouvelles tueries pendant des manifestations en Guinée.
Le président devait vraiment comprendre aussi la situation des autres. Parce que sous quel point qu'ils sont en train de revendiquer, on ne sait pas. D'abord, créer un dialogue entre ces personnes pour comprendre réellement ce qu'ils veulent.
Manifester est un droit qu'il faut respecter, soutient à son tour Alpha Oumar.
On doit laisser les gens manifester, comme l'article 10 de la Constitution guinéenne le prévoit. Il faut laisser les gens manifester. L'État est là pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens.
Il y a 2 semaines, la junte au pouvoir en Guinée a annoncé l'interdiction des manifestations politiques de rue, 2 jours après l'adoption d'une durée de 3 ans de transition par le Conseil national de la transition, organe législatif. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Les entreprises nigérianes disent être confrontées à la hausse des prix du blé déclenchée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, principaux fournisseurs de céréales. Avant le conflit, le Nigeria faisait déjà face à des pénuries de carburant et d'électricité. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Mwachuku Orizu, fondatrice de Somaziomiz, une entreprise de lait maternisée, attend une livraison de blé brun, élément essentiel dans la préparation de ses produits. Elle improvise en attendant son prochain approvisionnement.
Donc j'utilise du blé avec de l'avoine, puis de la farine d'igname pour produire celui-là en particulier. À vrai dire, il m'a même été difficile de l'obtenir. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation de prix. Obtenir le blé est en fait difficile maintenant parce que j'achète en gros.
Madame Orizu a commencé à produire des préparations pour bébés il y a 6 ans, après avoir quitté son emploi de scientifique de laboratoire. Elle regrette que les affaires tournent au ralenti ces derniers temps à cause du retard dans les approvisionnements en blé.
J'essaie déjà de chercher comment remplacer le blé par autre chose. Ce que nous avons en tête pour l'instant, c'est l'achat du fonio. Je dois prendre cette décision d'ici vendredi.
Le Nigeria a importé environ 2 milliards de dollars de blé en 2020 et 2021, principalement des États-Unis et de Russie. Selon l'Association des producteurs de blé, la production locale couvre moins de 10% des besoins du pays. Avant la guerre en Ukraine, les entreprises nigérianes subissaient déjà des pénuries d'électricité et de carburant, s'ajoutant à l'inflation et l'insécurité croissante. Segun Adjaï Kadir, président de l'Association des fabricants du Nigeria.
L'insécurité a rendu la chaîne d'approvisionnement interne très difficile. Les régions les plus touchées du pays se trouvent également être la ceinture d'où proviennent la plupart de nos aliments. Nous avons des défis. Maintenant, c'est aggravé par le fait que les gens ne peuvent même pas cultiver.
De nombreuses entreprises, comme la boulangerie d'Oussaman Mohamed, n'ont plus d'électricité et dépendent du diesel pour alimenter les générateurs. Mais le prix des carburants a triplé depuis le début de l'année.
Chaque jour, nous utilisons beaucoup de diesel, car l'électricité est très rare.
Les autorités nigérianes ont retiré de la circulation en janvier 170 millions de litres de carburant contaminés, ce qui a entraîné des pénuries. En attendant des jours meilleurs, la plupart des entrepreneurs comme Mwachukwu Orizu et Ousmane Mohamed font tout leur possible pour ne pas devoir mettre les clés sous la porte.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Du 28 au 31 mai, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a effectué une visite au Mali pour s'enquérir de la situation humanitaire et plus particulièrement celle de la sécurité alimentaire. Plus de détails avec notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko.
Martin Griffiths, responsable des Nations Unies en charge des questions humanitaires, est venu lui-même faire le constat de la situation humanitaire au Mali. En plus de Bamako, il s'est rendu à Mopti pour échanger avec la communauté et dresser le bilan de la situation au Mali.
5,7 millions de personnes au Mali ont besoin d'une assistance humanitaire. Un Malien sur quatre, soit 4,8 millions de Maliens, souffrent 1. De l'insécurité alimentaire. 2. Des impacts du changement climatique. Selon les projections faites, entre juin et août de cette année, 1,8 million de personnes au Mali seront sévèrement affectées par l'insécurité alimentaire.
Face à ce constat périlluisant, Martin Griffiths dit avoir noté, après ses rencontres avec le Premier ministre et le gouverneur de la région de Mopti, que des dispositions sont prises de façon globale pour venir en aide aux populations.
Ils ont une approche inclusive en réponse aux activités des groupes armés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir en même temps de réponse militaire, de réponse humanitaire, réponse justice, réponse good governance, réponse de développement, service de base. Il faut une alliance entre toutes ces formes d'activité.
En plus des efforts de l'État malien, les partenaires sont mobilisés pour apporter leur soutien qui, selon Martin Griffiths, n'est pas à hauteur de ses souhaits.
À ce moment, on a reçu simplement 11% des bailleurs de fonds, 11% financés de ce plan. Nous cherchons un total de 686 millions de dollars pour cette année pour les besoins humanitaires à Mali.
Selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, la faible mobilisation des fonds ne fait que compliquer la multiplication des besoins humanitaires à travers le monde. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM. Les 10 crises les plus négligées des déplacements de population se situent pour la première fois toutes en Afrique. C'est ce qu'affirme le Conseil norvégien pour les réfugiés dans un rapport rendu public ce mercredi. L'ONG s'inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine sur le continent. John Linden a joint à Kinshasa le conseiller régional pour les médias en Afrique centrale et occidentale du Conseil norvégien pour les réfugiés, Tom Per Costa.
Alors plusieurs critères justifient cette situation sans la justifier justement, parce que pour moi ce sont des mauvaises raisons. Mais la première, c'est tout simplement l'éloignement géographique des crises en Afrique par rapport au monde occidental, à l'Europe et aux États-Unis. C'est tout simplement le fait que les gens qui fuient les combats et le conflit dans ces régions-là, souvent, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou dans les pays voisins, mais ne se présentent pas aux portes de l'Europe. Par conséquent, les dirigeants politiques se sentent moins concernés. C'est un petit peu la loi du mort-kilomètre, comme on dit. On se sent plus concerné par les victimes quand elles sont proches de chez nous que quand elles sont éloignées. Donc c'est le premier fait. C'est une forme d'eurocentrisme de l'aide internationale. Le deuxième, c'est tout simplement que ces crises en Afrique sont des crises qui se sont enlisées depuis plusieurs décennies. Au Congo, par exemple, on a plusieurs dizaines d'années que les combats entre les communautés se passent. Donc il y a une forme de lassitude des médias et des bailleurs de fonds internationaux à répondre à ces besoins. Et pour répondre à votre deuxième question, les crises les plus critiques actuellement, c'est donc la RDC qui est placée numéro 1 dans la liste des plus négligées, pour la simple raison que la RDC a 30 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est une personne sur trois dans le pays, et plus 5 millions de... Et malgré ces chiffres-là, on peine à avoir les financements qu'il faut pour répondre à la crise humanitaire. Cette année, moins de 10% des fonds ont été reçus pour pouvoir répondre aux besoins de base.
Alors, selon votre organisation, le classement pour 2021 témoigne aussi de l'échec chronique des décideurs, des bailleurs de fonds et des médias à traiter les conflits et la souffrance humaine en Afrique. Quelles solutions proposez-vous pour remédier à tout cela?
Oui, c'est d'autant plus visible quand on compare avec la crise en Ukraine, où on constate que quand la communauté internationale veut se mobiliser, elle peut. La crise en Ukraine a été complètement financée. En une seule journée, ils ont reçu plus de 6 milliards de dollars, alors que, comme je l'ai dit, dans la région, on peine à avoir parfois juste la moitié des financements. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la communauté internationale comprenne qu'il faut répondre aux crises humanitaires en se basant sur les besoins, et pas en fonction des intérêts médiatiques ou des agendas politiques.
Vous parlez de la réponse qui a été immédiate pour ce qui est de l'Ukraine. Est-ce que finalement, les décideurs africains ne sont pas à mettre en cause ici?
Tout le monde a sa responsabilité au niveau des bailleurs de fonds internationaux, mais aussi au niveau des dirigeants africains. Là où, où se trouve leur levier, c'est dans leur engagement à faire en sorte que l'on trouve des solutions durables dans les conflits qui touchent les crises humanitaires. Par exemple, pour la RDC, il y a peu de temps se tenait le sommet de Nairobi, dans lequel les groupes armés discutaient avec le gouvernement pour trouver des accords sécuritaires. Mais rien n'a été conclu en termes d'accord, et aujourd'hui nous avons plus de 80 000 personnes déplacées en 10 jours dans le nord-est du pays. Donc il est urgent que les acteurs dans la région s'engagent pour faire en sorte qu'on trouve des solutions de paix, des solutions durables.
C'était Tom Per Costa, conseiller régional pour les médias en Afrique centrale et occidentale du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il était joint à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.